Histoire vivante. Anaïs Kien.
Aujourd'hui, au cœur de l'actualité romande, la drogue, ses trafics et sa consommation sont pourtant une préoccupation officielle de la Suisse depuis près d'un siècle. D'abord en contraignant ses entreprises pharmaceutiques au contrôle international. Dans les années 50 puis 70, elle élabore la politique qui lui semble répondre à ses besoins intérieurs. Punir, prévenir, guérir. Un triptyque qui ne résiste pas longtemps aux réalités du terrain des années 80. La diversification des usages, la consommation urbaine à ciel ouvert, l'insécurité qui en découle et la diffusion croissante du VIH transforment alors la toxicomanie en véritable problème de santé publique. À partir de la base, les acteurs du terrain, villes, cantons et confédérations, coopèrent à tous les niveaux pour façonner une politique concertée, moins axée sur les idéologies que sur le pragmatisme. Grâce à des programmes d'assistance, de prescription de méthadone et d'échange de seringues, il s'agit d'aider les toxicomanes à ne pas mourir au lieu de les sevrer. Un changement de paradigme pour une stratégie qualifiée de pionnière qui inclut, dès le début des années 90, la réduction des risques comme quatrième pilier de cette politique fédérale élaborée dans la dentelle. En 30 ans, comment ce modèle prévention, répression, traitement et réduction des risques, souvent pris en exemple, a-t-il évolué ? Face aux questions de régulation du marché du cannabis, de la recherche pionnière sur les psychédéliques en psychiatrie et finalement des marchés difficilement contrôlables de la cocaïne et des nouvelles substances psychoactives, la Suisse semble aujourd'hui piétiner sur l'échelle des innovations internationales. Drogue, son histoire, ses usages et ses images, épisode 5, du fléau social à la maladie. Pour nous éclairer sur cette question, Franck Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse et ancien membre de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie, est au micro de Céline Roduit pour Histoire vivante. Franck Zobel, bonjour.
Bonjour.
Si on remonte aux origines de la politique suisse en matière de drogue, c'est en 1924 que le pays se dote de sa première loi sur les stupéfiants. Sur la liste des substances interdites, on retrouve l'ensemble des opiacés et des dérivés de la cocaïne. Pourtant, à cette époque-là, la consommation de drogue est encore très peu présente à l'intérieur de nos frontières. Pourquoi notre première loi sur les stupéfiants, c'est l'étranger qui nous l'impose ?
Parce qu'à cette époque-là, au début du XXe siècle, les puissances internationales veulent contrôler le trafic ou, si vous voulez, la diffusion des opiacés et de la cocaïne. Et puis, elles veulent mettre en place des conventions internationales qui permettent de réguler ça, dans lesquelles on sait d'où partent les flux, où arrivent les flux. Et puis la Suisse, elle n'est pas intéressée du tout par ça, pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de flux qui arrive chez elle, il n'y a pas de problème, elle n'a pas de problème à régler. Et puis d'autre part, son industrie, elle est impliquée dans la production de ces substances-là. Et elle voit d'un assez mauvais œil qu'on lui impose des règles par rapport à la diffusion de ces substances-là. Donc si vous voulez, la Suisse fait ça de manière récalcitrante parce qu'on l'oblige un peu à participer à cet effort international. Et puis elle va adopter cette première loi en 1924. Mais c'est important parce que à partir de ce moment-là, et ce sera toujours le cas, la politique drogue suisse, comme celle des autres pays, est marquée par une dimension internationale. Et puis cette dimension internationale, elle va s'emballer au fil du temps. Au début, c'est simplement des conventions pour s'assurer comment les stupéfiants circulent dans le monde. Mais ensuite, on va imposer aux États des choses beaucoup plus dures. Par exemple, qu'il faut punir sévèrement les trafiquants. Plus tard, même dans les années 80, qu'il faut punir sévèrement les consommateurs, les gens qui possèdent. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'intrusion étrangère dans la politique drogue suisse qui va se mettre en place et qui part au début d'une volonté qu'on peut assez bien comprendre, qui est de contrôler les poisons, les toxiques, hein, si vous voulez, ces substances dangereuses, mais qui va s'emballer, se doubler d'une sorte de croisade contre les drogues qui est à la fois une croisade de la peur et une croisade morale et qui va complètement polluer l'intention du début qui est simplement de s'assurer que des substances dangereuses n'arrivent pas dans n'importe quelle main. Mmh. Et ça, c'est vraiment l'histoire de la politique drogue. Encore aujourd'hui, ces aspects-là façonnent vraiment notre politique actuelle.
Vous parliez de la production de médicaments. Dès la première moitié du XXe siècle, les industries pharmaceutiques et chimiques se développent. Les stupéfiants représentent une bonne partie de leurs profits et elles vont vouloir en garder l'exclusivité sur ce marché légal. Par exemple, en 1924, cette industrie européenne, dont les Suisses Hoffmann-Laroche à l'époque, s'organisent en cartel et fournissent le 60% de la production mondiale de cocaïne. Dans quelle mesure la politique de la drogue est d'abord celle de la régulation du marché des médicaments ?
Alors elle l'est clairement, c'est un des aspects de cette politique-là, puisqu'il s'agit de différencier les usages légitimes médicaux et les usages illégitimes, récréatifs ou d'autres. Quand aujourd'hui on découvre des nouvelles molécules en Suisse, on s'inquiète encore de savoir si elles n'ont pas des usages légitimes et si on n'est pas en train de briser un peu les possibilités d'expansion de l'industrie chimique ou pharmacologique. Donc oui, c'est clairement aussi une division entre usages médicaux, industrie pharmaceutique et puis usages illégitimes et production illégitime.
Si on revient dans les années 20, deux cantons romands prennent les devants de la politique fédérale. C'est quelque chose d'anecdotique ou pas vraiment à cette époque-là ?
Effectivement, Genève et Vaud sont les deux premiers cantons à réguler eux-mêmes au niveau cantonal la question d'accès à ces substances et la circulation des substances, donc opioïdes et cocaïne. Pourquoi ils le font ? On peut faire des hypothèses après coup. Traditionnellement, la Suisse romande est plus interventionniste que la Suisse alémanique, qui est plus libérale, dans tous les sens du terme, sur ces aspects-là. Donc c'est probablement ça, parce qu'il y a des cas à cette époque-là de ce qu'on va appeler plus tard la toxicomanie, mais c'est surtout dans le milieu médical que vous allez les trouver, avec des gens qui servent dans l'armoire à pharmacie des hôpitaux ou chez les médecins et qui développent une dépendance face à ça. Le problème social qu'on va découvrir plus tard dans la deuxième moitié du siècle, on ne l'a pas encore.
L'État qui doit réglementer, c'est une posture qui va se confirmer dans les années 80 et 90, un peu plus tard.
Oui, ça va aussi se confirmer par une autre vision, une vision plus morale de la question de la toxicomanie. Là où les Suisses allemands vont innover, vont mettre en place des solutions très originales, comme les locaux de consommation, la prescription d'héroïne, etc., les romans, à l'exception de Genève, qui suit plutôt le trend suisse alémanique, les romans vont être plus sur des positions un peu à la française, dire « la drogue, c'est mauvais, on ne peut pas faire de pacte avec la drogue », etc. vont avoir beaucoup plus de difficultés à adopter la réduction des risques, ce qui aujourd'hui a changé. Mais ça a pris plus longtemps, on peut donner un exemple. Lausanne est la dernière ville de Suisse à adopter un local de consommation en 2018. Berne l'a adopté en 1986, donc plus de 30 ans plus tard. Lausanne adopte ce type d'intervention.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la loi de 1924 est remplacée par la loi sur les stupéfiants de 1951. C'est ce texte, la L-Stup, qui est encore aujourd'hui la matrice de la politique en matière de drogue en Suisse. Les dérivés du cannabis sont rajoutés à la liste des psychotropes, mais c'est surtout à ce moment-là que le pays se dote d'une réelle politique intérieure en matière de drogue.
La loi de 1951, elle formalise beaucoup d'aspects de la loi de 1924. C'est plus, si vous voulez, une sorte de réactivation, là encore, de conventions internationales, de peurs internationales qui se passent en Suisse. On reconnaît à ce moment-là déjà l'existence de personnes qui ont des problèmes aussi en Suisse, mais c'est vraiment très au niveau individuel. On n'est pas encore à la question de société comme elle va venir au milieu des années 70. Le problème qu'on a en Suisse, le principal problème lié aux substances, c'est l'alcool. C'est lui qui crée tous les problèmes. On a un peu dans la bohème, un peu dans les milieux médicaux, quelques autres personnes, notamment qui font des voyages, comme Anne-Marie Schwarzenbach, qui avec Ella Maillard va partir en Afghanistan. On a des gens qui reviennent avec des problèmes d'addiction à certaines substances, mais ce n'est pas un gros problème encore. Et ça, ça va changer dans la décennie des années 60.
Pourtant, dans son exposé des motifs de la L-Stup de 1951, le Conseil fédéral parle pour la première fois du statut ambigu du toxicomane.
Au lieu d'essayer d'intimider le toxicomane par des sanctions très rigoureuses, il paraît indiqué de considérer la toxicomanie non pas comme un délit ou même un crime, mais comme une maladie. Celui qui s'adonne aux stupéfiants doit donc être soumis à un traitement médical. Des mesures préventives s'imposent alors pour qu'il n'y ait pas emploi abusif de stupéfiants.
Il va rester longtemps, ce diptyque répression-sevrage. Donc,
Franck Zobel.
Là, on reconnaît que la consommation de stupéfiants, surtout chez les personnes dépendantes, c'est un problème et puis que ça ne va pas juste se régler en disant aux gens de ne pas le faire. et qu'il faut trouver des solutions annexes. Et c'est vraiment le premier pas. Il y en a d'autres qui vont suivre plus tard jusqu'à la réduction des risques. Mais on est vraiment dans cette idée, la personne qui consomme des stupéfiants, des drogues, c'est une personne qui a un problème, qu'elle le consomme occasionnellement, régulièrement, et il faut qu'on l'en sorte. Et cette idée, elle va rester très, très, très longtemps. Ce n'est pas une question de société, c'est une question médicale ou c'est une question, si vous voulez, de prise en charge psychomédicale qui est à ce moment-là.
Cet appareil répressif, un peu déconnecté de la réalité sociale, il ne va pas tenir face aux années 60 et 70. Les révoltes estudiantines parisiennes, les idéaux hippies vont traverser l'Atlantique. La société suisse fait face à une démocratisation de la consommation de drogue, un peu plus tardivement qu'ailleurs quand même, mais ça vient. Ici aussi, consommer des drogues reflète le désir d'un changement de société avec son caractère contestataire et ses revendications politiques. Comment le pays, vous le disiez, qui est beaucoup plus familier de l'ivresse alcoolique, va répondre à cette consommation d'une jeunesse révoltée qui est devenue un véritable problème intérieur ?
Il y a un certain désarroi face à cette jeunesse qui bouscule tout, tous les codes vestimentaires, sexuels, tous les rôles, et qui en plus arrive avec ce péril qui vient de l'étranger. Et puis comment est-ce qu'on va réagir à ça ? Et là, il y a clairement une société qui se tend, qui se referme sur elle-même et qui envoie, si vous voulez, la répression au front en disant « on ne peut pas tolérer ça et il faut immédiatement combattre ça ». Il y aura différents événements qui vont arriver dans les années, à la fin des années 60, qui vont vraiment être clairement cette posture-là. Il faut défendre la société telle qu'elle est aujourd'hui et donc il faut réprimer.
En matière de répression, le cas d'un jeune Neuchâtelois servira d'exemple. Son histoire commence en 1969, le jour où Michel saisit avec sa main un joint qu'une amie lui tend. Il le fume. On l'arrête pour avoir enfreint la loi sur les stupéfiants, non pas pour avoir consommé, mais pour avoir acquis ce joint illégalement de la main de quelqu'un d'autre. L'arrêt 95-4 du tribunal fédéral mentionne l'acquisition comprend tous les actes par lesquels on se procure des stupéfiants, fût-ce à titre gratuit. Elle peut être distincte de la consommation. Elle est alors punissable comme telle, tandis que la consommation seule ne l'est pas. L'arrêt Michel fera jurisprudence et permettra au canton de trouver un moyen détourné de punir les usagers.
C'est hypocrite et puis surtout ça reflète la vision de l'époque.
Franck Zobel.
Les drogues, si vous voulez, elles vont aussi servir d'outils pour régler ce conflit qu'on a avec la jeunesse, puisque c'est pas toujours facile de réprimer cette jeunesse. Si elle traîne dans les parcs et elle s'amuse, comme ça c'est difficile. Mais avec la drogue, on a un moyen, si vous voulez, de la réprimer aussi. Donc on va utiliser la loi sur les stupéfiants pour ça et on va avoir cette augmentation très spectaculaire des dénonciations pour infraction à la loi sur les stupéfiants, pour des délits qui sont en règle générale absolument mineurs, qui vont apparaître dès la fin des années 60 et qui vont augmenter en flèche dans les années 70.
Oui, nous sommes alors en 1969. 521 personnes vont être poursuivies cette année-là pour infraction à la loi sur les stupéfiants. En 1971, elles seront plus de 3600, donc une augmentation de 700% en deux ans.
C'est ça. Et on va se retrouver même, si mes souvenirs sont bons, dans la deuxième moitié de la première décennie des années 2000 avec 36 000 ou 40 000 dénonciations.
Du côté du Parlement fédéral, on voit émerger deux camps qui s'opposent. D'un côté, on prône la répression au nom de la lutte contre le trafic, de la protection de l'ordre public et aussi de la prévention. Et de l'autre, de plus en plus de partisans de la décriminalisation qui expliquent qu'on ne peut pas à la fois chercher à soigner un consommateur et le condamner pour sa consommation. Mais c'est pourtant ce qui va se passer dans les années 80. On va d'abord enfermer les personnes toxicodépendantes.
En fait, quand on regarde les débats qui amènent à la révision de la loi sur les stupéfiants de 1975, on voit que toutes les idées sont déjà présentes. C'est juste que vous l'avez bien dit, il y a ces deux camps. Il y a d'un côté un camp conservateur qui dit pas de compromis avec les drogues. Il y a cette idée qu'on va se débarrasser des drogues qui circulent encore à l'époque. Et puis de l'autre côté, des gens qui ont compris que les drogues, c'est qu'une partie de l'histoire, qu'il y a d'autres choses qui se passent, qu'en punissant les gens, on ne les aide pas, qu'on risque au contraire de faire en sorte qu'ils se cachent, qu'on ne sache plus leur consommation, etc. Et puis, c'est vraiment une période, pas seulement en Suisse d'ailleurs, dans laquelle on réfléchit très très bien. Beaucoup de rapports à cette époque aux Pays-Bas, aux États-Unis, comme ça, qui sont écrits, où on a une vision très lucide de la problématique des drogues, et on aurait pu un peu, à cette époque-là, peser sur le bouton stop et dire, là, la guerre à la drogue, on l'arrête parce que ça marche pas. Mais en fait, on n'y arrive pas. Il y a quelques petites initiatives, la tolérance pour le cannabis aux Pays-Bas, la décriminalisation des drogues dans certains États américains. En Suisse, on fait un peu un compromis à la Suisse, c'est-à-dire qu'on dit d'une part, on interdit tout, mais en même temps, on laisse au juge la possibilité de trouver des portes de sortie pour les gens s'ils sont prêts à entrer en traitement. Donc on laisse, si vous voulez, des exceptions, mais le modèle, c'est le modèle de l'interdiction totale. Les majorités étaient clairement encore en faveur de cette guerre à la drogue. C'est un concept extrêmement simple, hein. C'est une idéologie qui a été extrêmement opératoire, qui a très bien fonctionné. Et puis, à l'époque, elle est clairement majoritaire. Elle va l'être jusqu'à l'apparition du sida, où elle va vraiment prendre un coup terrible.
Oui, justement, l'échec de la politique répressive va s'imposer dans les années 80 et 90. On y arrive. Zurich devient, aux yeux du monde, la capitale de la drogue. Au Platzspitz, on compte 3000 toxicomanes par jour en 1990. Mais les scènes ouvertes, il y en a également à Vienne, à Bâle, à Berne, dans d'autres grandes villes suisses notamment. On peut parler d'une véritable catastrophe en termes de santé publique et d'un traumatisme comme la Suisse n'en a jamais connu, ni même les autres pays d'Europe.
Ouais, alors si on revient juste en arrière, donc on a une loi en 75 qui dit, bon, on interdit tout, mais en même temps, il faut un peu aider les personnes qui ont des problèmes liés aux drogues. Et puis on met en place quelques mesures, mais on est déjà trop tard. Parce que dans cette espèce de combat entre la jeunesse et la société conservatrice qui est en place, la rupture est déjà en train de grandir très très fort. Elle va apparaître au début des années 80 avec les grandes manifestations de jeunes à Zurich, à Lausanne, Lausanne bouge, etc. Et là, non seulement la rupture est plus forte, mais en plus l'héroïne est arrivée. Elle est bien arrivée, il y en a partout. Moi, quand je suis adolescent, je me promène à Lausanne et je vais au centre autonome à Lausanne, il y a de l'héroïne partout.
Comment explique-t-on que l'héroïne déferle aussi massivement sur l'Europe et la Suisse à ce moment-là ?
Alors vous vous souvenez, on était resté un peu dans les années 50 où les gens amènent de leur voyage des drogues. Et puis à partir des années 60, autour de la guerre du Vietnam notamment, il y a un marché beaucoup plus grand de l'héroïne qui se met en place. D'abord autour de ce qu'on appelle le triangle d'or, qui sont donc Laos, le Myanmar et la Thaïlande. Et puis là, vous commencez à avoir des trafics. Et puis il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'on peut faire de l'argent avec ça. Puis à partir des années 80, il y a l'Afghanistan qui devient un producteur majeur d'héroïne, notamment suite à l'invasion soviétique en Afghanistan. Et tout d'un coup, ce qui était beaucoup plus des importations, si vous voulez, un peu amateurs, vous avez véritablement des trafics qui se mettent en place et l'héroïne est arrivée. Elle arrive en Suisse au début des années 70 et elle va vraiment, peu à peu, se diffuser dans le pays. Au début des années 80, il y a donc une population jeune qui est en rupture avec la société, qui s'intéresse à cette drogue. Donc il y a drogue et population intéressée par cette drogue qui se rencontrent, qui sont les deux premiers éléments. La catastrophe, l'injection qui vient s'ajouter là-dessus parce que c'est le mode de consommation le plus efficace. Et puis alors, il y a le sida. Parce que celui-là, personne ne l'attendait. Et il arrive là-dessus et on se rend compte rapidement qu'un des principaux moyens de diffusion du VIH-sida, c'est le partage des seringues. Et vous allez avoir donc cette situation qui va se mettre en place, absolument catastrophique, et auxquelles vont encore s'ajouter les scènes ouvertes de la drogue. Donc vous avez vraiment une situation en termes de santé publique qui se cristallise dans les années 80, qui va exploser vers la fin des années 80, mais qui est en fait un peu le résultat de tout ce qui était avant, si vous voulez, de cette incapacité à avoir une politique drogue intelligente, à être en contact avec cette jeunesse, à trouver les bons moyens d'interagir avec elle qui va aboutir à cette catastrophe-là.
Si on revient plus précisément sur ces scènes ouvertes-là, c'est quand même un phénomène singulier qui se passe en Suisse, dans un pays conservateur, plutôt tranquille. Comment ces lieux, qui sont d'abord des lieux d'achat, sont devenus des lieux de consommation et finalement les plus grands marchés de drogue à ciel ouvert en Europe? Pourquoi les politiques laissent faire jusqu'à perdre le contrôle?
Alors c'est une sorte de perte de contrôle progressive. Au début des années 80, je vous l'ai dit, il y a ces centres autonomes de la jeunesse qui se mettent en place dans les grandes villes, qui sont rapidement des lieux de consommation de drogue. D'ailleurs, c'est là que sont nés les premiers locaux de consommation de drogue supervisés. Et puis, si vous voulez, il y a ces endroits, on sait qu'il y a de la drogue, donc on les referme assez rapidement parce qu'il y a trafic de drogue, etc. La drogue retourne dans la rue, alors il y a des petites scènes ouvertes qui se créent. Alors, chaque fois qu'il y a une scène ouverte qui se crée, on chasse les gens, etc. Et puis, ça va durer, ce jeu du chat et de la souris, pendant des années et des années. Et puis, la population des consommateurs est plutôt en train d'augmenter à cette période-là, parce qu'il y a vraiment diffusion d'un comportement. Et puis, ça aboutit en 87 au Plattspitz, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête leur courir après. Et puis, tout le monde baisse un peu les bras en disant « Oh là là, on peut rien faire », ou c'est les autres, les travailleurs sociaux, ou la police, ou. Tout le monde baisse un peu les bras, et puis ça va créer ce truc incroyable, hein, où il y a vraiment un marché des drogues à ciel ouvert, où on voit les gens s'injecter, où le sida se transmet à une vitesse incroyable. Mais ça va aussi être en même temps un endroit d'expérimentation génial, parce que c'est là que les premières mesures de réduction des risques vont vraiment être mises en place. On va distribuer des dizaines de milliers de seringues dans ces endroits-là par mois. On va faire vraiment de l'aide à Basseuil, comme on va la développer partout en Suisse après. Donc c'est en même temps des lieux d'apprentissage incroyables sur quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place. Et ces mesures-là, c'est des mesures qui sont à la hauteur des capacités de ces gens-là, qui à ce moment-là sont en grande partie des personnes dépendantes, mais pas seulement.
La passerelle du Letton. Les fixeurs et les dealers en ont fait leur chose. Ce sont eux qui dictent la loi. Quiconque n'est pas de ce monde ne s'y aventure pas.
Tel quel, 25 mars 1994.
Ce marché sordide déborde sur le Seal Quay, une petite promenade entre la rivière et la route. On y vend la drogue à la criée, sous les yeux des passants et des automobilistes. Imaginez les mêmes scènes chez vous, devant vous. Ici, on achète, on vend, on consomme toutes les drogues, sauf l'alcool, des plus anodines aux plus ravageuses.
Ces initiatives locales, avec des privés, des associations, des travailleurs sociaux, dans les villes, ce sont eux qui vont principalement s'emparer du problème. Et ce sont finalement eux les premiers acteurs du terrain et du développement de cette politique pragmatique en matière de drogue en Suisse.
Les deux premiers, si vous voulez, c'est à la fois les organisations privées, mais c'est des fois aussi les hôpitaux, par exemple, où certains médecins prennent des initiatives ou comme ça. Et puis, c'est les villes. C'est les villes qui sont au front. Les scènes de la drogue, elles sont en ville. C'est les villes qui gèrent les marchés de la drogue, qui gèrent la question des scènes de la drogue, qui gèrent les problèmes qu'il y a dans les villes, les problèmes de nuisance publique, mais aussi les problèmes sanitaires qu'il y a dans les villes. Et c'est elles qui vont faire tout le travail autour des politiques drogues. Donc, c'est les grandes villes, les villes-cantons aussi, comme Bâle et Genève. Et c'est là que la nouvelle politique drogue suisse va être inventée, la fameuse politique des quatre piliers, et va être reprise ensuite au niveau fédéral. Et l'idée de cette politique des quatre piliers, le grand changement, c'est qu'on dit, OK, la politique drogue, c'est prévenir, c'est soigner, c'est se battre contre le marché des drogues, mais c'est aussi faire de la réduction des risques, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent ou ne peuvent pas arrêter de consommer, il faut aussi les aider, il faut mettre en place des mesures qui sont à la hauteur de leurs besoins et de leurs capacités.
On imagine qu'à cette époque-là, tous les cantons et toutes les villes ne sont pas touchés de la même manière. Et heureusement, peut-être que Zurich a éclipsé des initiatives qui venaient d'autres régions, d'autres villes, d'autres cantons également. Mais cette réduction des risques, ce sera quand même un levier important pour promouvoir ce quatrième pilier porté par Ruth Dreyfus et dont la Suisse va se doter finalement à partir de 91 et 98 dans les urnes.
Alors Zurich, si vous voulez, attire l'attention aussi parce que les toxicomanes de partout vont à Zurich. Puis vraiment, pensez au sida. Le sida va jouer un rôle énorme là-dedans. On a, au pire moment de la crise, je crois au milieu des années 90, chaque année, environ 400 consommateurs de drogue qui meurent d'overdose et 400 autres qui meurent du sida. On finit par être dans une situation en Suisse où chacun connaît quelqu'un qui a dans sa famille quelqu'un qui est mort de la drogue ou du sida lié aux drogues. Puis effectivement, la Confédération, qui a longtemps été silencieuse, en retrait, etc., commence à apparaître, utilise un peu ses pouvoirs et s'engage dans cette question des drogues et puis popularise cette idée de politique des quatre piliers.
Parmi les mesures prises, les villes, on l'a dit, ouvrent des locaux d'injection. Mais celles qui seront le plus débattues, ce sont l'échange de seringues pour faire face à la transmission du VIH et les prescriptions médicalisées d'héroïne qui verront le jour en 1993. Mais ce sont des mesures qui vont permettre de voir des résultats rapides, j'imagine.
Oui, absolument. C'est d'abord la mise à disposition de méthadone, qui est un produit de substitution d'héroïne avec lequel on peut traiter les gens. La deuxième, c'est la distribution de seringues. Mais là, c'est vrai, il va y avoir une bataille hein, dans certains cantons. Il va y avoir des refus de distribuer des seringues propres, y compris à Zurich d'ailleurs. Et puis ensuite arrivent les locaux de consommation. Dans certains endroits, une mesure très décriée, hein, parce qu'on tolère la consommation. On va loin par rapport à cette guerre contre la drogue qu'on voulait avoir. Là, il va y avoir des référendums dans différentes villes. Et puis, il y a un peu la mesure phare, même si ce n'est pas la plus importante, qui va être la prescription d'héroïne, qui est une idée qui avait déjà été proposée par un futur conseiller fédéral, Moritz Leuenberger, en 1979, mais qui, à ce moment-là, va être mise en place. Effectivement, on va être un des premiers pays au monde à faire ça. On va être pendant longtemps le seul, quasiment, à le faire. Donc, si vous voulez, un peu, on va dans certaines choses qui, en tout cas, symboliquement, sont très importantes, mais qui font beaucoup de sens en termes de santé publique.
On a l'impression que ce qui caractérise cette politique suisse, c'est qu'elle est partie d'en bas, des villes surtout, elle a dû agir vite. Mais on a aussi l'impression que son génie, c'est d'avoir su se concerter, se coordonner et d'avoir su convaincre l'opinion pour y adhérer, presque sans qu'elle s'en rende compte. Comment, à différents niveaux, cette politique a convaincu les Suisses et est finalement parvenue à s'imposer comme pionnière au niveau mondial ?
Alors deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ce qui est bien et ce qui a bien été fait en Suisse, mais c'est la même chose qui se fait aussi à l'étranger, c'est de mettre les gens autour d'une table et puis qu'ils s'écoutent les uns des autres et qu'ils apprennent les uns des autres. Jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de consensus d'idées, même si on garde nos différences, mais quand même sur une sorte de politique suisse en matière de drogue. Sinon, ce qui va convaincre la population en Suisse, c'est les faits. C'est la courbe des infections liées au VIH qui descend, c'est le nombre de personnes qui meurent des drogues qui descend, c'est la diminution de la visibilité de la problématique des drogues, c'est ça qui va gentiment convaincre la population. Alors, il y a eu une série d'initiatives populaires qui ont entraîné ces débats qu'on a en Suisse chaque fois qu'il y a une initiative populaire. On s'échange les idées sur une problématique donnée. Et donc, la population suisse est probablement une des mieux informées au monde sur la question de la politique drogue.
En 1997 et 1998, deux initiatives populaires totalement opposées, l'une restrictive et l'autre libérale, chahutent la politique fédérale. C'est Jeunesse sans drogue et Drolleg qui seront toutes les deux refusées dans les urnes.
Ce traumatisme des scènes ouvertes reste encore très présent. On le voit aujourd'hui encore dans les médias avec ce qui se passe à Lausanne. Vous êtes d'ailleurs souvent sollicité pour venir donner votre expertise, pour pouvoir en parler. La situation est pourtant différente. Aujourd'hui, le focus est porté sur le marché difficilement contrôlable de la cocaïne, du crack, celui des NPS, des nouvelles substances psychoactives qu'on achète sur Internet, qui sont difficilement détectables, sur la régulation du marché du cannabis ou celui de la recherche sur les psychédéliques. En Suisse, qu'a-t-on fait de cette politique, souvent prise en exemple depuis 30 ans ?
Alors nous, on est un peu restés sur nos lauriers, si vous voulez. À partir des années 2000, c'est d'autres pays qui font avancer la politique drogue, notamment le Portugal avec la décriminalisation de l'usage de drogue. C'est à partir des années 2010, c'est l'Amérique sur la question du cannabis. Et nous, on est un peu restés là avec notre politique des quatre piliers. Beaucoup de pays nous regardent encore comme un exemple, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé dans ces domaines-là. On le refait aujourd'hui. Tout d'un coup, depuis 2-3 ans, il y a une sorte de retour de la politique drogue dans le débat en Suisse. On voit cet été, effectivement, avec ces questions de consommation de crack et de consommation dans l'espace public, que la solution qu'on avait trouvée n'est peut-être pas suffisante. Donc voilà, le débat est reparti, mais on a un peu roupillé pendant une quinzaine d'années, alors que d'autres avançaient sur ces questions. Il y a un dossier beaucoup plus important qui, à mon avis, est sur la table, mais je ne suis pas sûr qu'il va être traité de mon vivant. On a commencé par parler des origines de la loi sur les stupéfiants. Cette loi sur les stupéfiants a été polluée par une guerre contre la drogue qui nous a compliqué la vie, qui a fait probablement des milliers de morts, etc. Et puis probablement, il va falloir oser un de ces jours déchirer cette loi sur les stupéfiants et la repenser de A à Z. Je ne suis pas en train de parler de simplement légaliser toutes les drogues. Je suis simplement en train de vous dire qu'il va falloir se reposer la question. Mais qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? Comment on l'a atteint? Qu'est-ce qu'on a raté? Comment on pourrait le faire différemment? Et ça, c'est un dossier qu'il va falloir oser attaquer un de ces jours, parce qu'en soi, cette loi, elle a beaucoup trop de problèmes, elle a beaucoup trop de peur, de mauvaises intentions pour que ce soit une bonne loi de santé publique.
Céline Roduit s'entretenait avec Franck Zobel pour Histoire vivante. Thank you.
We'll be right back.